Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie, je suis Frédéric, le F de Girafe, et je suis ravi de vous retrouver pour mon émission intitulée « Autour d'eux », autour de la transmission des savoirs. Très heureux dans ce nouvel épisode de faire savoir et faire connaître l'action menée au sein de l'EM Normandie, grande école de management, s'il en est. L'action menée par le pôle School of For Good et ses acteurs. Je reçois ainsi aujourd'hui Alice, Mathilde et Yvan. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce rendez-vous et de nous parler de School for Good, ce pôle qui s'est saisi au sein de l'EMN des enjeux transverses de la RSE, de la diversité, de l'équité, l'inclusion, de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ainsi que sur les défis écologiques. Autant de sujets sur lesquels une sensibilisation, une prise de conscience sont évidemment indispensables pour devenir acteurs en faveur de ces enjeux. Alors avant d'échanger sur School for Good et sur la déclinaison des actions menées par votre pôle au sein de l'EMN, je vais vous demander tout simplement, comme je fais avec tous mes invités, de vous présenter rapidement, mais qu'on sache un petit peu qui vous êtes et d'où vous venez. On va commencer peut-être par Alice.
Avec plaisir. Donc je suis Alice Duval.
Bonjour Alice.
Bonjour. Je suis responsable diversité, équité et inclusion au sein de l'EM Normandie. Ça fait quelques mois que j'occupe ce poste, mais ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis à l'école.
Ouais, d'accord.
Voilà, j'ai 33 ans. Je ne sais pas s'il faut autre chose.
Non, simplement nous dire peut-être ce que tu faisais avant.
Alors, ce que je faisais avant, en fait, je m'occupais de l'accompagnement des étudiants à besoins spécifiques. Donc, j'étais vraiment en front avec les étudiants au quotidien. Donc, ce que j'entends par besoins spécifiques, c'est handicap, principalement.
D'accord. Donc, voilà. Oui, ce sont des enjeux connexes par rapport à ta mission.
Complètement. Complètement. Et j'avais besoin de maîtriser ces thématiques-là pour faire ce poste actuellement.
Très bien. Merci. Mathilde ?
Merci Frédéric.
Bonjour.
Du coup, Mathilde Lavelle, moi je travaille à l'EM Normandie depuis 2 ans et demi et je suis responsable du parcours engagement. Donc je m'occupe surtout des enjeux pédagogiques en lien avec le développement durable. Mmh. Et avant ça, j'ai un diplôme d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'associatif sur les questions de climat et de lutte contre le dérèglement climatique.
D'accord, parfait, c'est très clair. Merci. Et Yvan ?
Bonjour. Donc moi c'est Yvan Lemaitet, je suis chef de projet transition écologique. Donc moi je m'occupe plus particulièrement des questions de décarbonation, donc des questions, on va dire, comme on l'entend généralement, écologiques à l'école. Avant j'ai travaillé à l'étranger, au Vietnam et en Espagne, et ça fait 6 ans maintenant que je suis à l'EM Normandie. Je travaille déjà dans la qualité et généralement c'est une évolution un peu naturelle parfois d'aller vers les aspects environnementaux. Donc voilà, moi ça fait maintenant 2 ans et demi que je m'occupe des aspects environnementaux.
D'accord, donc tu as eu une approche un peu interculturelle de ces sujets-là en travaillant dans d'autres pays, dans d'autres façons de fonctionner.
Ouais, si je puis dire, mais je travaillais pas là-dedans avant.
Pas sur ce
sujet. Mais je sais de quoi il retourne ailleurs.
D'accord. Voilà. Très bien. Parfait, merci pour ces présentations brèves mais précises. Alors, School for Good, depuis quand ce pôle a été créé ? Déjà, avoir une référence chronologique, ça fait combien de temps que School for Good existe ?
Alors, je me permets de garder la parole. Ça existe depuis 2021-2022, mais en fait, l'école était déjà engagée depuis bien longtemps sur ces enjeux. Sauf que là, en fait, on a décidé de vraiment formaliser, structurer, formaliser notre engagement à travers une politique, puis des plans d'action.
D'accord.
Qu'on vous expliquera un petit peu plus après.
Et donc, quelle est la raison d'être de School for Good, à la fois dans la continuité historique que tu viens d'évoquer et dans sa réalité actuelle ?
Mais en fait, là, c'est une valeur. En fait, il y a une mission qui est au-dessus, celle de l'EM Normandie, qui est, voilà, attention, ça, on va parler anglais, School for Good, School for Life, School for All. Donc, comment on fait pour faire en sorte de former, ça c'est le School for Good, les générations de demain aux enjeux écologiques. Voilà. Le School for All, vous devinez, c'est comment on fait en sorte d'éduquer tout le monde.
Toucher tout le monde, oui.
Et enfin, le School for Life, comment on fait en sorte de garder, de faire en sorte que les personnes qui ont mis le pied à l'EM Normandie restent dans la communauté EM Normandie toute leur vie.
D'accord.
Et School for Good, c'est donc une de ces trois valeurs.
D'accord. Sur les objectifs, sur les missions que vous assignez, Yvan, si tu veux continuer ou passer la parole à tes collègues.
Okay. Donc il y a trois axes prioritaires. D'abord, ce qu'on appelle le Campus for Good, je vous ai dit qu'il y avait de l'anglais. Donc là, c'est comment fait-on pour avoir des campus résilients, donc ancré sur nos territoires, conscient de ses faiblesses, et faire en sorte qu'on ait des campus exemplaires en matière de décarbonation, le plus exemplaire possible. Il y a aussi ce qu'on appelle le knowledge for good, donc tout ce qui est attrait à la connaissance. Comment fait-on pour mettre dans, dans nos maquettes, dans nos formations, les enjeux du développement durable et de la responsabilité sociétale pour, encore une fois, que nos élèves sortent équipés en compétences et en connaissances à la sortie de leur diplôme ici. Et enfin, le people for good. Donc ça, le people for good, c'est comment on arrive à engager toutes les parties prenantes internes et externes de l'école en les formant, en les sensibilisant et en leur offrant aussi un cadre qui soit un cadre serein pour qu'ils puissent faire leurs études et puis aussi qu'ils puissent aussi s'empowerer, si je puis dire.
D'accord. Oui, tu as évoqué le fait que ce dispositif intègre toutes les parties prenantes. Ça m'amène à la question suivante, c'est en fait comment se positionne cette entité, School for Good, au sein de l'organisation générale de l'EM, et comment voilà, justement vous allez au contact des différentes parties prenantes. Est-ce que vous êtes plutôt électron libre? Est-ce que vous êtes au sein d'une direction? Est-ce que vous dépendez de la direction générale? Est-ce que voilà, vous pouvez nous expliquer un peu ça?
Ouais, je vais prendre la suite. Du coup, on a commencé en 2021.
Donc Mathilde.
En 2021-2022 par être au sein d'une même direction. Donc on était rattaché à la directrice de la stratégie, donc très proche du COMEX et de notre ancien directeur général. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant vraiment dans une petite équipe, on avait un peu de mal à travailler en transverse, alors que c'est vraiment des sujets transverses et que nous, on avait envie de pouvoir engager toute l'organisation et pouvoir vraiment... investir tout le monde de cette mission qui est la mission School for Good. Et donc, on s'est restructuré pour être chacun au cœur des services où finalement nos sujets sont traités. Donc moi, par exemple, avec le pilier Knowledge, donc tout ce qui a trait à la connaissance, je suis au sein de la direction des programmes et je travaille étroitement avec la faculté, histoire justement de pouvoir traiter mes sujets directement avec des collègues qui sont proches et qui vont traiter ces sujets au quotidien. Donc je vais pouvoir travailler avec les profs, les enseignants-chercheurs, mais aussi avec tout ce qui va être la planification et qui sont finalement des collègues très proches. Et donc ça va faciliter à la fois le fait de moi pouvoir toucher plein de monde et donc du coup d'avoir un impact sur mes collègues, mais aussi pour que ce soit aussi plus efficace et qu'on puisse avancer plus vite. Ce qu'on avait un peu du mal à faire à l'époque. Donc, en tout cas, pour le pilier Knowledge, on est au sein de la direction des programmes, en lien étroit avec la faculté, et ça fonctionne beaucoup mieux depuis qu'on a cette organisation-là.
Il y a un phénomène d'infusion, finalement. Ça redescend, ça capillarise, quoi.
Ouais.
Ok. Plus précisément, quels sont vos périmètres respectifs d'action? Donc là, si on fait un tour de table, Mathilde, Alice, Yvan... Qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, au sein de cette entité?
Pour compléter, du coup, sur ma précédente prise de parole, donc on avait Alice et Yvan qui sont aussi au sein des directions. Donc Alice, elle est aussi à la direction des programmes avec moi, mais plus particulièrement dans la direction de la vie étudiante. Et Yvan, du coup, est en lien avec le secrétaire général. Donc on va pouvoir toucher avec tout ce qui va être attrait aussi au physique, puisque c'est quand même tes missions. Et du coup, moi, mes missions et mon périmètre, ça va être donc de m'intéresser à ce qu'on donne comme formation à nos étudiants, donc aux maquettes. Et je suis aussi responsable de plusieurs cours. Donc, dans le cadre du parcours engagement, je vais pouvoir donner des cours aux étudiants de 2, 3 et...
C'était ma question. Donc, en fait, ça s'étend sur l'ensemble du parcours grande école et des autres programmes, d'ailleurs, j'imagine, bachelor et ainsi de suite.
En fait, on a cartographié l'intégralité de nos maquettes, mais on pourra y revenir un peu plus tard. Mais on a eu l'occasion de faire la refonte de tous nos programmes. On a eu la validation auprès du ministère, donc pour avoir le grade licence et le grade master sur tous nos programmes pendant 5 ans. Et donc, dans le cadre de cette refonte de programme, on a vraiment cartographié tous nos enseignements pour essayer de déjà savoir où est-ce qu'on pouvait mettre du School for Good et aussi pouvoir construire une vraie progression pédagogique, ce qui n'était pas le cas dans la précédente maquette parce que du coup, elle datait d'il y a un peu plus longtemps. Donc là, on a vraiment tout cartographié. Et ça fait aussi partie de mes missions, du coup, de bien m'assurer que cette progression pédagogique, elle existe.
Et j'imagine qu'en bout de piste, sur cet aspect-là, les étudiants valident des points, valident des ECTS, des modules.
Ils ont des ECTS associés, donc en fonction des années, donc, ça ECTS, va être plus
on rappelle,
ou moins.
Ce sont les points obtenus par rapport au système européen.
Tout à fait. Voilà. Et en plus de ça, on leur fait passer ce qu'on appelle le TASC, qui est un certificat qui leur permet de certifier. Donc c'est un test qui est quand même assez intense, qui se... Mais c'est à peu près le même format que le TOEIC. Donc, ils vont passer sur un ordinateur pendant 80 minutes. Mmh. Et à la fin, ils ont un score qui nous sur 100. Mmh. Et ça permet de noter déjà nous. Ça nous permet de savoir si on a bien fait notre travail. Et eux, ça leur permet aussi d'évaluer l'étendue de leurs connaissances et ce qu'ils pourraient avoir besoin de travailler en plus. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place il n'y a pas très longtemps. Ça fait seulement 2 ans qu'on le fait. Mmh. Mais c'est bientôt obligatoire comme condition de diplomation pour nos étudiants. Et c'est aussi grâce à ça qu'on va pouvoir mieux évaluer notre... notre travail.
Très bien. Peut-être même exercice pour toi, Alice, par rapport à ton périmètre.
Donc, au niveau de mon périmètre, moi, je vais plutôt m'attaquer à toute la partie humaine, donc dans le sens très large du terme. Je vais, par exemple, avoir en charge la prévention des comportements à risque. Donc, ça, c'est un gros, gros volet sur lequel on doit travailler, notamment parce qu'on a eu, grâce à la MILDECA, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. On a eu une enveloppe par rapport à ça, donc on doit évidemment travailler là-dessus. Puis on est sur une cible évidemment qui peut être sujette en tout cas à ce genre de comportement. En parallèle, il va y avoir également aussi la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. On en parle beaucoup maintenant. C'est vrai qu'au niveau de l'UM Normandie, je pense qu'on a été assez précurseur sur ce sujet-là, avec un dispositif très structuré, avec des formations qu'on a pu mener en interne auprès de nos collaborateurs, auprès de nos étudiants. Et ça a plutôt bien fonctionné. Et en parallèle de tout ça, donc forcément tous les sujets en lien avec la diversité, l'équité et l'inclusion, donc ça va être aussi les sensibilisations, les formations, ça peut être, c'est très large puisque c'est tous les projets. C'est vrai que moi je fais partie de la direction de la vie étudiante, mais je travaille vraiment main dans la main avec les ressources humaines évidemment. Avec tout ce service-là. Et sur le dernier point peut-être à aborder, c'est le bien-être d'une manière générale de nos étudiants. On se rend compte que quand ils intègrent une grande école, ils attendent ça. Ils n'attendent pas que des cours.
C'est une expérience globale, en fait.
Exactement, exactement. C'est vraiment c'est des services aussi à part qu'ils attendent. Donc on se doit vraiment de travailler là-dessus et on se doit d'être à la pointe sur ces sujets-là.
Bien sûr, ça fait partie d'un parcours complet et d'un retour sur investissement, si je puis dire.
Exactement, et puis pour être un bon manager aujourd'hui, il faut aussi savoir prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Donc clairement, on doit s'attaquer à ces sujets-là.
Voilà. Très bien, c'est très clair. Yvan, sur ton domaine, sur ton périmètre.
Ouais, donc moi, c'est encore une fois l'empreinte de nos campus. Alors, c'est vrai que j'ai parlé de décarbonation tout à l'heure. Je ne sais pas si on est tous familiers avec ce
terme-là.
Oui,
mais c'est pas inutile de le repréciser.
En fait, toutes les activités que l'on mène vont avoir une empreinte carbone en ce sens où on va avoir besoin d'énergie pour les faire, en fait. Donc, l'alimentation, les mobilités, etc., etc. Cette énergie, généralement, c'est à partir d'énergie fossile. En fait, elle va, une fois qu'on va l'utiliser, émettre du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, ce qui va créer l'effet de serre et donc le réchauffement climatique. Voilà. Donc moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'on émette un minimum de CO2 pour éviter que le réchauffement climatique ne soit trop important. Voilà, c'est juste pour un petit rappel.
Non, mais c'est très clair, c'est bien, c'est très pédagogique.
Donc d'abord, ce que je dois faire, moi, c'est mesurer l'empreinte carbone. Donc pour ça, on fait ce qu'on appelle des bilans de gaz à effet de serre ou des bilans carbone. Et donc, on mesure, comme je disais, toutes les activités, notre numérique aussi, l'énergie, nos bâtiments, tout ce que ça dépense. Grâce à ça, on va avoir une somme totale qui est en tonnes de CO2, que je tairai ici, même si c'est pas secret. Et en fait, je mets des plans d'action ensuite à chaque fois avec qu'est-ce que je fais pour l'alimentation. Donc c'est comment je fais, je fais en sorte qu'elle soit la plus végétale possible. Sur les mobilités, on va essayer de faire en sorte d'éviter l'autosolisme, le fait de prendre sa voiture seule pour faire un report modal vers le vélo ou les mobilités douces. Ainsi de suite. Et juste sur la partie, parce qu'on en parlait un peu sur la partie organisation, donc comment ça se fait, on a créé un copil campus il y a un an maintenant.
Copil, comité de pilotage.
Un comité de pilotage, pardon. Avec 8 référents en son sein. Et il y en a un par, du coup, il y a une référente par plan d'action, comme vous aurez imaginé, donc mobilité, achat, alimentation, etc. etc. Et en fait, ça permet de coordonner toutes les actions, parce que quand on travaille sur
le. Transverse.
Exactement. Parce que quand on travaille sur le numérique, on va forcément travailler aussi avec les bâtiments, etc.
Sur une petite question par rapport à ce que tu as dit juste avant, sur les bilans carbone, vous avez des outils que vous avez conçus vous-même ou c'est des outils qui sont mis à disposition? Comment ça se passe?
Alors, la méthodologie bilan carbone, elle a été conçue il y a quelques années par un cabinet présidé par Jean-Marc Jancovici, si je ne dis pas de bêtises. Mais je pense que tout le monde le connaît. On est passé par les deux derniers bilans carbone, on est passé par un prestataire, mais tout le monde utilise la même méthodologie de toute façon. Là où il y a des différences, c'est sur les périmètres. Certaines organisations ne vont pas prendre en compte certains périmètres, bref. Nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on a décidé d'avoir la compétence en interne et on se forme du coup à la méthodologie pour qu'on puisse nous-mêmes faire nos bilans carbone.
D'accord, voilà. Très bien. Ma question suivante portait justement sur les instruments de mesure. Bon, ben voilà, tu viens d'y répondre en ce qui te concerne. Sur des sujets plus sensibles, Alice, par exemple, comme celui des comportements à risque, des violences potentielles. Comment vous arrivez à faire du préventif? Au-delà de l'action de sensibilisation, de pédagogie, qu'est-ce qui fait qu'on va empêcher des passages à l'acte et malheureusement quand ils arrivent, on espère le moins possible. Comment vous traitez ça?
Alors, je vais prendre un exemple, je pense, qui est très très parlant au niveau toujours des VSS, donc violences sexistes et sexuelles. On organise, nous, depuis maintenant 2021, des ateliers qui sont faits à la rentrée. Donc en fait, dès le début, on les acculture aussi à ça. Sur justement tout l'aspect prévention, c'est quoi le consentement. On parle aussi de la méthode des 5D, qui est une méthode pour lutter contre le harcèlement de rue. On leur montre aussi des vidéos qui sont peut-être un peu... qui sont chocs, clairement, mais c'est un parti pris. Clairement, on voulait les faire réagir, on voulait aussi ouvrir le dialogue par rapport à tout ça. Et c'est les ateliers qui ressortent dans les enquêtes comme étant les ateliers les plus appréciés par les étudiants. Donc comme quoi, il y a une vraie attente aussi là-dessus, que l'école prenne position sur ces sujets. Ça rassure également, parce que je pense qu'une école qui n'en parle pas,
c'est inquiétant.
Exactement, c'est plutôt inquiétant. Il faut plutôt le voir comme ça, je pense. Il vaut mieux en parler, il faut en effet bien libérer la parole là-dessus. Et en tout cas, ces ateliers fonctionnent très bien. On a élargi cette année le spectre des sujets qu'on aborde, c'est-à-dire qu'on ne se restreint pas qu'au VSS. Là, on va vraiment aborder tout ce qui est addiction également, en tout cas conduite à risque. On va parler plutôt... de manière large. On va aborder aussi le sujet des discriminations, du harcèlement scolaire également. On se base aussi, mine de rien, par rapport au signalement qu'on reçoit pour essayer de s'adapter au mieux par rapport à notre population aussi, par rapport à ce qui peut arriver chez nous. Je ne dis pas, heureusement qu'on a des chiffres là-dessus qui sont hors normes, pas du tout, mais c'est qu'on a la réalité fait qu'on a des signalements, qu'on en a conscience et que on essaye de rectifier le tir par rapport aux besoins qu'on a. On tente un nouveau format cette année. On verra ce que ça donne, mais je suis plutôt très confiante. Voilà.
Et donc, par rapport à vos trois axes d'action, avec le recul, si on date ça à 2021, date à laquelle donc ce pôle s'est mis en place, même s'il y a une antériorité, comme on le disait. Est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment quand même que tout ce que vous avez fait porte ses fruits? Alors peut-être pas sur toutes les actions, peut-être pas sur tous les objectifs que vous êtes assignés, il y a encore du travail à faire sans doute, mais sur un certain nombre, vous dire, voilà, là en 4 ans, on a quand même fait des choses.
Moi je m'en rends compte de mon côté parce que les étudiants sont très confiants, ils viennent nous parler déjà, donc ça c'est une vraie victoire, c'est-à-dire que les étudiants on les connaît pas tous individuellement, évidemment, on en accueille beaucoup, mais pour autant, ils ont cette confiance en passant le pas de notre bureau, en se disant, je vais être écouté, je vais potentiellement être cru, et ça va bien se passer, je vais être bien pris en charge.
Ouais.
Et donc ça, c'est une énorme victoire pour nous.
Ouais.
Voilà.
C'est déjà beaucoup.
Et je pense que si ça se passait mal, le dispositif pour nous il serait mort, clairement. Ça ne marcherait pas du tout, le bouche à oreille ça marche très bien pour le coup au niveau des étudiants et même entre les différents campus, donc ça je pense qu'on peut tout à fait le voir très facilement.
D'accord, merci Alice. Mathilde, de ton côté?
Bah, du coup, moi j'ai l'impression que, en fait, on a fait toute la refonte de nos maquettes, donc pour ça, nos programmes grande école ou nos programmes bachelor. Et le School for Good, le développement durable, la soutenabilité a pu prendre une place quand même très importante. Et du coup, je trouve que c'est un très bon indicateur de voir que maintenant tous les profs en parlent. L'idée, c'est pas tant de faire des cours qui s'appellent développement durable et de les avoir à côté des cours, mais plutôt d'aller infuser dans les cours, donc les cours de marketing, les cours de finance, les cours de comptabilité, enfin vraiment tous les cours que les étudiants vont avoir et qu'on attend dans une école de commerce. Et ben nous, on a été voir dans les syllabus, les syllabi, pardon, pour intégrer le School for Good un peu partout. Et donc, ça, je pense que c'est une vraie réussite. Et je trouve que ce qui est aussi un bon indicateur, c'est que les profs s'investissent. Donc, on a lancé récemment le copil des DRS de la faculté, donc encore un comité de pilotage. Et donc, avec...
Des DRS, on rappelle juste, développement durable
et responsabilité sociétale. Voilà. Donc, on travaille avec un représentant de chaque département. Donc, à la faculté, on a plusieurs départements de professeurs. Donc, on va avoir stratégie, économie et territoire, de nombreux départements. Et les chercheurs au sein de ces départements vont du coup donner des cours, mais ils vont aussi s'investir dans l'école. Et donc nous, on a la chance d'être une dizaine à siéger dans ce copil-là pour réfléchir à des solutions, pour former mieux les profs, leur donner des nouvelles ressources, apporter aussi des nouvelles connaissances aux étudiants, peut-être faire des nouvelles études de cas qui sont plus actuelles. On réfléchit aussi c'est quand même un milieu qui évolue vite. Donc les normes vont changer. Donc c'est aussi l'occasion de discuter des différentes normes. Donc moi, je trouve que c'est déjà un espace très enrichissant pour moi parce que j'y apprends beaucoup de choses. Mais c'est aussi intéressant parce que ça fait évoluer l'organisation ensemble. Enfin, en tout cas, c'est chouette. Et je trouve que c'est des bons indicateurs qu'on progresse.
Et que ça vous permet d'être en alerte et en veille permanente.
Exactement.
Quoi. Très bien. Merci, Mathilde. Et quant à toi, Yvan ?
Eh bien, moi, j'ai envie de parler du label DDRS. Donc, encore une fois, développement durable, responsabilité sociétale. En fait, qui est un label qu'on a eu il y a 2 ans, qui est le label phare vraiment sur ces questions-là dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et c'est un label à points. Ça veut dire qu'en fait, il y a un certain nombre de variables à lesquelles on doit répondre. Et à chaque fois, il y a des niveaux. On s'est mis un niveau plutôt humble la première fois. Mais en fait, on nous a dit que, nos pairs du coup, qui nous ont jugés, nous ont dit que, en fait, non, on faisait plus que ce qu'on imaginait. En fait, on a toujours cette tendance aussi, je pense, à malheureusement être, ne pas dire assez ce qu'on fait, et ne pas en être fier alors qu'on fait beaucoup de choses. On passe l'audit de renouvellement la semaine prochaine.
Donc, ah oui.
Oui, souhaitez-nous bonne chance. Mais je pense que, vu tout le travail fourni ces dernières années, ça va aller. mais voilà, ça, je pense que c'est des bons indicateurs parce que ça nous aide vraiment à évoluer, déjà. Et ensuite, j'ai envie de parler de l'enquête que l'on fait tous les 2 ans, ici à l'école, auprès des parties prenantes internes. Donc les professeurs, les étudiants et les collaborateurs, on leur demande en gros qu'est-ce que, selon eux, est-ce qu'on a une politique sociale forte d'inclusivité, est-ce que on a une politique sur la biodiversité, etc., etc. Et on a eu les résultats là il y a 2 mois. Du coup, on a pu comparer sur les 2 dernières années et on a des résultats, enfin de super résultats, moi je trouve. On sentait que c'était encore un peu fébrile il y a 2 ans parce que on venait juste de formaliser la démarche. Et maintenant, on a des retours très positifs. Donc, ils savent, tout le monde sait qu'on est dans cette démarche, mais je pense que on en entend toujours plus. Et voilà, c'est notre objectif aussi, nous, c'est d'en faire toujours plus, de toute façon. Voilà.
Merci beaucoup. Justement, on parlait des différentes parties prenantes. On les a donc évoquées, les étudiants, les équipes, le corps professoral, les différents copils que vous avez mis en place. Est-ce que, dans l'histoire de School for Good, vous avez senti à certains moments des réticences ? Des réticences au changement, de comportement ou sur des discours qui sont mal compris. Est-ce que vous avez constaté ça ou c'est passé tout de suite comme un message clair et adopté par ceux qui les écoutent ?
Je me permets de continuer de parler. Je vous passe le micro après, mesdames. En fait, ce qu'on aime bien dire, nous, c'est qu'on plante des graines quand on parle de DDRS ou de RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Donc voilà, il faut faire preuve de patience. Des fois, il y a de l'incompréhension parce que, en fait, si on ne fait pas preuve de pédagogie, on n'explique pas aux gens, des choses qui nous paraissent, nous, évidentes. Hein. Là, je peux prendre pour exemple le cas des poubelles de tri qu'on a mis en place en supprimant les poubelles individuelles dans les bureaux l'année dernière. Il y a eu un petit moment de vague où j'ai dû expliquer pourquoi c'était important, notamment auprès du CSE. Parce que, de prime abord, c'est pas... dès lors qu'on change les habitudes des personnes, il faut l'accompagner. Quoi.
D'accord. Voilà. Mais il faut de la pédagogie. Hein.
Mathilde, du coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Yvan, le label des DRS, ça a été un bon référentiel aussi pour faire progresser l'organisation. Mm-hmm. Ça nous a donné des billes pour dire, en fait, c'est pas nous, tous les trois, dans notre coin, qui allons vous dire qu'il faut enlever les poubelles de vos bureaux, par exemple. Mais c'est tout un référentiel, c'est tout l'écosystème de l'enseignement supérieur qui se mobilise. Et du coup, ça nous a quand même permis d'engager beaucoup de monde. Et on se rend compte que ce soit dans le Copy It For Good que tu as Campus for Good que tu as lancé, ou pendant tout le label, que l'organisation est quand même plutôt bienveillante et a envie de s'engager.
Oui, et puis ça permet, oui, c'est ça, d'embarquer tout le monde, quoi, finalement.
C'est ça. Et je trouve qu'on peut quand même constater que notre direction générale et le COMEX est aussi très engagé et très bon soutien. Et je pense que le label, ça nous a permis aussi, eux, de les mettre dans le bain. Et du coup, forcément, ça les met dans l'action. Et du coup, quand le COMEX s'engage, ça retombe sur toute l'organisation. Et on se rend compte qu'on a quand même la chance d'avoir des collègues qui sont prêts à s'engager avec nous. Ça, je le souligne.
C'est vrai, en plus, que tous ces dispositifs d'évaluation, de renouvellement, de certification... paraissent être des contraintes, mais qui en sont, de vrai. Hein. Mais c'est aussi très structurant et ça permet effectivement de mettre les choses dans l'axe et d'embarquer les équipes. C'est juste. Alice, autre chose à ajouter ?
Non, moi je suis complètement d'accord avec notamment ce que tu disais, Yvan, sur le fait de planter des graines. C'est vrai qu'on se rend compte que lorsqu'on force un peu le destin, ça marche pas. On fait face à des murs, et ce qui est normal. En effet, je pense que l'être humain aime sa zone de confort, et sortir sa zone de confort, c'est pas simple, en effet. Donc ça prend du temps, il faut être très patient, je trouve, mais pour autant, ça veut pas dire qu'on n'a pas d'alliés. En fait, il suffit de creuser un tout petit peu et on se rend compte qu'on a beaucoup plus d'alliés qu'on ne le pense, et que des projets qu'on peut avoir peuvent finalement avancer plus vite que prévu. Donc faut jamais perdre espoir, au contraire. Ça peut prendre un peu de temps, mais parfois ça peut aller très vite.
Il faut intégrer le facteur temps, quoi.
Voilà. Exactement.
Une question avant d'arriver tout doucement au bout de notre entretien, un peu polémique, et je m'en excuse à l'avance. Est-ce que vous pensez que, d'une manière générale, il y a quelque part un peu d'artificialité dans tout ça, dans ces initiatives mises en place, pas seulement dans les grandes écoles, dans les entreprises, dans les institutions publiques, pour essayer de rentrer dans un moule et faire parce qu'il faut le faire et parce que c'est la tendance et qu'on en fait peut-être même parfois un outil marketing ou de communication. Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ? Est-ce que vous continuez à l'avoir ou pas du tout ? C'est une question polémique que j'aurais jamais dû poser.
On adore. Alors moi, à titre très personnel, peut-être qu'au tout début, justement lorsque ces sujets-là sont apparus un petit peu plus, en tout cas dans la société, peut-être qu'il y avait un petit côté, en effet, marketing, image, etc. Mais en fait, c'est une bonne chose maintenant. Et je pense que, encore une fois, ce côté, on s'habitue. Et on se dit, oui, en fait, c'est clairement ce qu'il faut faire. Et le fait qu'on puisse aller dans cette direction, parce que, on est au fur et à mesure convaincus. Je nie pas qu'au tout début, je pense que certaines entreprises, institutions, etc. ont pu être...
Sur les questions de transition écologique, tout ce qu'on a appelé le greenwashing. Exactement. On peint les murs en vert et puis tout va bien, quoi.
Exactement. Mais maintenant, en tout cas, moi, je pense que l'UM Normandie est vraiment et sincèrement engagée sur ces sujets. Il y a une vraie volonté. Comme tu le disais, le COMEX est très engagé. Je pense que je peux parler en notre nom à tous les trois, mais on ne pourrait pas, nous, faire notre métier actuellement
un élan complet global, quoi.
Exactement. Et si c'était pour faire des paillettes. Voilà, ça va, on a envie d'aller au-delà.
Il y a une vraie sincérité dans tout ça, quoi. Voilà. Mathilde ?
Ça fait de moi peut-être une personne un peu chauvine, mais moi je trouve qu'à l'UM Normandie, on a une vraie sincérité à la fois dans la volonté de faire réussir nos étudiants. Donc on les accompagne en bienveillance avec toute leur diversité, leurs différences, pour qu'ils puissent réussir et avoir, en tout cas, atteindre leur potentiel, avoir la carrière dont ils rêvent. Et je trouve que du coup, ça se trouve et ça se ressent aussi parmi nos étudiants, cette sincérité de l'école. Mais on a aussi une sincérité en tant qu'organisation dans la démarche. Et donc, je trouve que le fait qu'on soit trois à travailler sur ces sujets, c'est aussi un bon indicateur, parce que ce n'est pas le cas de toutes les écoles d'avoir trois personnes qui vont travailler main dans la main sur ces sujets. Parfois, on va avoir juste un chargé de mission tout seul face à une grosse organisation. Et du coup,
mais qui n'est pas forcément que sur ces sujets-là en plus.
C'est ça. On peut saluer aussi du coup l'école pour ça. Et je pense qu'on est aussi un peu obligé de faire des actions qui parfois ont un fort coût, enfin vont être vraiment un coup d'éclat énorme, parce que ça, c'est important. Par exemple, on pense aux poubelles de tri. Alors les poubelles de tri, ça a été énormément de travail. Et Yvan, il a beaucoup travaillé pour qu'elles puissent être mises en place. Et maintenant, on en entend moins parler, mais en fait, c'était un coup tellement grave de ne pas les avoir mis en place, parce que c'était vraiment tout le monde qui allait nous dire pourquoi est-ce que les lumières sont allumées sur les campus le soir et pourquoi est-ce que vous ne faites pas le tri. Et donc, ça polluait toute notre démarche, alors que maintenant qu'elles sont là, eh ben, on peut vraiment s'intéresser au vrai sujet. Et il y a par exemple, les lumières allumées sur les campus la nuit, bah, quand on s'intéresse vraiment à la comptabilité en termes d'énergie, ça ne représente rien du tout. Parce que c'est vraiment des campus avec des lumières qui sont des LED.
Enfin, oui, basse énergie.
Ça ne consomme rien du tout. Mais c'est un coût de com' qui est très mauvais d'avoir les lumières. Donc on est obligé de les éteindre. Et c'est vrai que parfois, on va faire aussi des actions dans un but de communication pour permettre après de pouvoir traiter les vrais sujets. Donc,
Oui, ce sont des étapes un peu obligées, mais qui permettent d'avancer plus profondément sur les sujets. Quoi.
Oui, bah, moi je rejoins mes camarades collègues pour dire que oui, je suis vraiment heureux de voir une gouvernance impliquée et qui a envie en plus d'apprendre sur le sujet, parce qu'on n'est pas forcément tous et toutes experts, évidemment. Donc ça fait vraiment chaud au cœur et c'est évidemment essentiel afin d'embarquer tout le monde. Et aussi pour voir un peu plus haut, on constate aussi, je pense, après, que dans les autres organisations, que ce soit des entreprises, des écoles, en fait, on est tous maintenant dans une démarche, en fait, RSE, responsabilité sociale et des entreprises, pardon. On est tous dans une démarche, on a tous quasiment des labels, des normes ISO, etc. Et c'est quasiment impossible de revenir en arrière, en fait. Justement.
Oui, il y a des effets de cliquer, quoi, finalement.
Exactement. Si du jour au lendemain, on n'a plus notre label des DRS ou une grosse entreprise perd sa norme ISO 26000, ça la fout vraiment mal, quoi. Et il y a, je pense, dans beaucoup de structures moyennes et grandes, obligatoirement une personne qui est en charge de la RSE maintenant. Et comme nous qui avant kikiner la gouvernance de temps en temps pour leur dire il faut mettre ça en place, etc., même si c'est pas évident. Donc voilà, maintenant l'histoire est en marche. On est tous dedans et
peut-être que le monde de l'enseignement supérieur et de la pédagogie en général joue un rôle clé, en ce sens que chacun des étudiants diplômés est porteur de ces sujets aujourd'hui, ce qui fait que au-delà du fait qu'il y ait un responsable RSE ou un responsable transition écologique dans une organisation, c'est que toutes ces générations d'étudiants qui arrivent seront porteurs de ces sujets-là et vont accompagner le rôle tenu par une seule personne, finalement, dans une globalité, dans une collectivité. Quoi.
Exactement, et ça sera plus facile, du coup, pour...
faire passer les messages et mettre en place les choses.
Encore une fois, ce qu'on disait, on plante les graines.
Alors, avant-dernière question, alors je ne sais pas si c'est une réponse transverse que vous voulez faire ou chacun par rapport à vos axes d'activité, c'est si vous aviez carte blanche, ou peut-être que vous avez déjà carte blanche, quel serait le projet ou l'action que vous souhaiteriez mettre en place demain, sans qu'on compte ce que ça représente en termes de coûts humains, de coûts financiers, de coûts... Voilà. Est-ce que vous avez en tête un projet idéal ? Ou pas, hein ?
Du coup, je peux prendre la parole, donc Alice. Alors, c'est vrai que pour le moment, on a mis en place des temps de formation au niveau des collaborateurs, au niveau des étudiants, etc. Mais je pense qu'on mériterait, tout le monde mériterait d'avoir plus de temps de formation. Voilà, pour vraiment creuser les sujets. Je pense par exemple, je suis un peu monothème, mais sur les VSS, sur le handicap, mine de rien, les professeurs sont en première ligne avec les étudiants à besoins spécifiques.
Bien sûr.
Exactement, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on accueille également des étudiants transgenres. Comment on accueille toute cette diversité au sein de l'école et comment on le fait bien, surtout. Donc voilà, un temps de formation plus long.
Plus long.
Voilà, ça nous permettrait, encore une fois, je pense, d'aller beaucoup plus vite.
Bon entendeur.
Exactement. Moi, si je devais me projeter sur un projet ou une action, c'est plus sur essayer de travailler encore plus en lien avec les étudiants. Parce que pour l'instant, moi, je les vois lors des formations que je vais encadrer. Mais je trouve qu'on ne les a pas encore assez mobilisés dans des associations étudiantes et pour les avoir au quotidien, qui pourraient se mobiliser sur nos enjeux. Et ça... c'est aussi sûrement par manque de temps, parce que du coup, on est aussi pris par nos sujets. Mais si on pouvait lancer une dynamique étudiante qui viendrait hors des cours, oui. Ce serait vraiment un projet qu'on aurait tous les trois très envie de voir aboutir et qui, à mon avis, apporterait beaucoup à nos étudiants et à l'organisation.
Merci Mathilde. Yvan ?
Ouais, moi, je termine côté collaborateur et collaboratrice, tiens. Même si je suis tellement d'accord avec le fait qu'il faut, on espère que les étudiants, on arrivera encore plus à les embarquer. Du coup, genre, si le COMEX m'écoute,
il écoutera.
C'est faire en sorte qu'il y ait un objectif sur ces enjeux-là pour chaque collaborateur et collaboratrice de l'école, tous les ans.
D'accord.
Voilà, tu as une mission, aussi humble soit-elle, selon le poste que tu occupes, tes compétences, mais que tu sois dans cette démarche, en fait.
Une pierre à l'édifice.
Exactement. Et je suis pression aussi que ça aura ça fera locomotive. Et que si on a cette exemplarité, les autres parties prenantes seront plus à même de nous suivre dans notre démarche. Voilà.
Parfait, merci beaucoup. Merci pour toutes ces réponses à ce sujet et à ces sujets qui sont à la fois passionnants et cruciaux dans la vie des organisations, quelles qu'elles soient. Alors, dernière question traditionnelle pour finir. On est sur Radio Girafe Normandie, donc je pose cette même question à tout le monde. Alors, vous pouvez faire une réponse commune ou individuelle, comme vous voulez. Mais voilà, la fameuse question, quelle girafe pensez-vous être ? Alors, c'est Mathilde qui s'y colle en premier. Alors,
c'était pas forcément facile, mais du coup, moi, j'ai choisi la girafe curieuse parce que c'est... ça me représente bien. Et puis, je trouvais ça sympa avec la thématique du grand coup qui permet d'avoir une vision globale et de prendre un peu de recul. Et, donc,
et de hauteur.
Et de hauteur, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi la girafe curieuse.
Merci, Mathilde.
C'est moi ? Ok.
Yvan ?
Alors, moi, je suis allé traîner sur Internet quand j'ai vu que tu avais demandé ça. Et malheureusement, j'ai vu que les girafes vivaient seulement jusqu'à 36 ans en captivité. Et je vais avoir 36 ans bientôt. Selon Internet, je suis une girafe en fin de vie. Mais bon, j'espère que je vais passer...
Non, mais tu seras l'exception qui confirme la règle.
J'espère bien. C'est le 16 septembre. Bref. Moi, je suis plutôt une girafe persévérante. Parce que ce qu'on disait, voilà, c'est que malgré tout, on est engagé... on dépense beaucoup d'énergie, je pense, dans notre travail au quotidien. Il faut qu'on tienne le coup et tous ensemble. Vraiment, j'y tiens, le mot, c'est vraiment ensemble, main dans la main, on va y arriver.
Parfait. Alice, enfin.
Et de mon côté, alors moi, je n'ai pas fait de recherche Wikipédia, Google ou autre sur les girafes. Moi, je suis partie d'un adjectif, je pense, qui me correspond bien. Je suis une girafe optimiste. Je crois profondément en l'humain. C'est vrai qu'on a souvent tendance à voir les mauvais côtés, mais pour autant, il ne faut surtout pas oublier les bons côtés. Je me raccroche vraiment à ça. Voilà.
Parfait. Merci pour, à vous, toutes ces belles girafes qui accompagnent Radio Girafe Normandie. Il ne me reste plus qu'à vous remercier vraiment très sincèrement d'avoir joué le jeu, d'avoir pris du temps pour cet épisode de mon émission Autour d'eux. Je rappelle que je recevais donc Mathilde, Alice et Yvan du pôle School for Good de l'EM Normandie. Merci à tous de nous avoir suivis dans le cadre de mon émission. Vous pouvez retrouver toutes ces émissions ainsi que les autres sur la nouvelle appli Radio Girafe Normandie, téléchargeable sur Apple Store ou Google Play. Je vous rappelle que vous pouvez également adhérer et devenir membre de notre association Radio Girafe via l'appli ou le site internet radiogirafenormandie.fr. Vous êtes bien sur Radio Girafe Normandie, je suis Frédéric, le F de Girafe. On se retrouve très bientôt. Merci.